Frères et sœurs, c'est le Seigneur lui-même qui nous reçoit ce matin. Grâce, amour et paix nous sont donnés de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je vous invite à vous lever. Vous tous qui la terre habitez, chantez à Dieu, chantez. Vous tous, petites parcelles d'humanité, réunies dans ce temple d'Annecy, chantez à votre Dieu, chantez. Car il est beau de chanter notre Dieu, il nous a fait, nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, il est notre berger, il nous attend pour se donner à nous, au travers de sa présence, de sa parole. C'est en lui notre Père, en lui notre Sauveur, en lui l'Esprit qui murmure à notre esprit, les mots de l'amour et de la communion, c'est en toi, en lui, que nous puisons notre force et notre paix. Donne-nous ta force, Seigneur, donne-nous ta paix, pour que devant toi nous puissions nous tenir dans la joie de l'écoute. Amen. Et je vous propose de chanter la troisième strophe du cantique « Laisse-nous, Seigneur, entrer dans la maison » que vous trouvez dans votre livret.
Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur,
nous louons Dieu avec le psaume 67, un peu aménagé. Donc psaume 67, « Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que ton visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture, sur terre tu conduis les nations. » La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Et je vous propose de chanter ce même psaume 67, page 80 du Alléluia. Que sa justice Prenez place. Bonjour à chacun, à chacune d'entre vous. Je suis heureux de vous retrouver après une période de décrochage. Je reviens, donc je suis en pleine forme, j'ai plus d'excuses. Si je me prends les pieds dans le tapis, ce sera de ma faute. Je vous invite à placer notre vie sous le regard de Dieu. Ô Dieu, je reconnais devant toi que je ne crois pas aux possibilités que tu mets en moi. Je ne me suis pas aimé autant que j'ai aimé les autres. Je n'ai pas aimé mon corps, ni mes talents, ni ma façon d'être. J'ai laissé d'autres décider de ma vie. Je me suis fié davantage au jugement des autres qu'à mon propre jugement. Seigneur, prends pitié. Je reconnais que je ne suis pas épanoui autant que mes capacités me le permettraient. J'ai été lâche quand je risquais le conflit pour une cause juste. Je me suis efforcé d'éviter les confrontations. Seigneur, prends pitié. Je reconnais que je n'ai pas osé montrer tout ce que je savais faire, que je n'ai pas osé vivre à fond mes capacités. Ô Dieu, notre Père et notre Créateur, Jésus, notre frère et notre libérateur, Esprit Saint, notre mère et notre consolatrice, pardonne-moi d'avoir douté de moi, redresse-moi, donne-moi de croire en moi et de m'aimer. Seigneur, prends pitié. Le Tout-Puissant est mon berger, nous restons assis pour chanter cette strophe. Un jour, les apôtres demandent à Jésus « Augmente en nous la foi ». Et la réponse qu'ils reçoivent a de quoi les surprendre, car c'est la parabole du serviteur inutile. C'est l'histoire d'un homme qui a travaillé toute la journée dans les champs de son maître et qui, le soir venu, reste pour le servir à table. Ce serviteur est décrit comme étant inutile ou ordinaire ou quelconque. Il n'a fait que ce qu'il devait faire. Cette parabole nous dit que devant Dieu, il n'y a pas de bons et de mauvais serviteurs. Nous sommes tous des serviteurs inutiles. La valeur de notre vie ne tient pas à ce que nous faisons pour Dieu, mais à ce que Dieu a fait pour nous. Tous, nous sommes aimés de Dieu, quoi que nous fassions. Que l'amour vous relève et qu'il vous donne de devenir des serviteurs quelconques, mais heureux, inutile, mais fidèle, ordinaire, mais libre. Je vous invite à vous lever pour chanter « Ô ma joie et mon espérance ». Libérés et pardonnés, écoutons ce que Dieu nous donne la force de faire. Ayez un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de regarder à son propre intérêt, considère aussi celui des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel n'a pas voulu se prévaloir de son égalité avec Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'un serviteur et devenant semblable aux hommes. Comme un enfant qui sert son père. « L'Esprit dit à Ézéchiel, « Fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle, ouvre ta bouche et mange ce que je vais te donner. » Je regardais, une main était tendue vers moi, elle tenait un livre en forme de rouleau. Il me dit, « Fils d'homme, mange ce rouleau, ensuite tu iras parler à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche et il me fit manger le rouleau. Il me dit, « Fils d'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau. » Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Je vous invite à la prière. Parfois, ta parole est acide et décapante. Parfois, elle est douce et apaisante. Que souffle ton esprit sur nous ce matin, et ta parole sera vivante, stimulante et fortifiante. Amen. Deux lectures pour aujourd'hui. La première sera lue par Frédéric, dans le livre des Actes, au chapitre 5. Alors, lecture des Actes, chapitre 5. Versets 27 à 42. Après les avoir ramenés, ils les introduisirent dans la salle du grand conseil. Le grand prêtre leur dit : Nous avions formellement interdit d'enseigner au nom de cet homme. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez nous rendre responsables de la mort de cet homme. Mais Pierre et les apôtres répondirent : Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité ce Jésus que vous avez mis à mort en clouant sur le bois, et c'est lui que Dieu a élevé pour siéger à sa droite, comme chef suprême et sauveur, pour accorder à Israël la grâce de changer et de recevoir le pardon de ses péchés. Et nous, sommes les témoins de ces événements, avec le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ces paroles ne firent qu'exaspérer les membres du grand conseil et ils voulaient faire mourir les apôtres. Mais l'un d'entre eux, un pharisien nommé Gamaliel, se leva pour donner son avis. C'était un éminent enseignant de la loi, estimé de tout le peuple. Il demanda que l'on fasse sortir un instant les apôtres. Puis il dit « Israélites, faites bien attention à ce que vous allez faire avec ces hommes. » Rappelez-vous, il y a quelque temps, on a vu paraître un certain Teudas qui se donnait pour un personnage important. Il a entraîné quelques 400 hommes à sa suite. Or, il a été tué et tous ceux qui s'étaient ralliés à lui furent dispersés et l'on n'en entendit plus parler. Après lui, à l'époque du recensement, Judas de Galilée a fait son apparition. Lui aussi a attiré à lui bien des gens. Il a péri à son tour et tous ses partisans furent mis en déroute. À présent donc, voici mon avis. Ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les partir. De deux choses l'une, ou bien leurs projets et leurs œuvres viennent des hommes et dans ce cas, leur mouvement disparaîtra. Ou bien, il vient de Dieu et alors, vous ne pouvez pas le détruire. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Le conseil se rangea à son avis. Ils rappelèrent les apôtres, les firent battre et leur défendirent de parler au nom de Jésus. Après quoi, ils les relâchèrent. Les apôtres quittèrent la salle du conseil, tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes de souffrir l'humiliation de Jésus, pour Jésus. Et chaque jour, dans la cour du temple ou dans les maisons particulières, il continuait à enseigner et annoncer le Messie Jésus.
C'est Mélanie qui... Ah oui, on entend la différence. C'est Mélanie qui conduira dans la seconde lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 21, les 14 premiers versets.
Après cela, Jésus se manifesta aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voilà comment il se manifesta. Simon Pierre, Thomas, qu'on appelle Didyme, Nathanaël de Cana, de Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon Pierre leur dit : « Je vais pêcher. » Ils lui dirent : « Nous allons avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. C'était déjà le matin, lorsque Jésus vint se placer sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit : « Et les enfants, n'avez-vous pas un peu de poisson ?»« Non, lui répondirent-ils. » Il leur dit : « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent et il y eut tant de poissons qu'ils ne pouvaient plus le ramener. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre : « C'est le Seigneur !» Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon Pierre ceignit un vêtement car il était nu et il se jeta à la mer. Les autres disciples revinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas bien loin de la rive, à 200 coudées environ. Une fois descendus à terre, ils virent un feu de braise sur lequel on avait disposé du poisson et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. » Simon Pierre remonta donc dans la barque et il tira à terre le filet que remplissaient 153 gros poissons. Et quoi qu'il en eût autant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit : « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui poser la question : « Mais qui es-tu ? » Il savait bien que c'était le Seigneur. Alors Jésus vient, il prend le pain et le leur donne. Il fit de même avec le poisson. Ce fut la troisième fois que Jésus se manifesta à ses disciples depuis qu'il était relevé d'entre les morts.
Souffle de Dieu vivant, l'Esprit créateur. Il y a un épisode dans Les Frères Karamazov de Dostoïevski où le domestique Smerdiakov se croit supérieurement intelligent parce qu'il a trouvé une contradiction, ou plutôt une incohérence, dans la Bible. Ce qui lui permet de se placer parmi les esprits éclairés à qui on ne la fait pas. Aujourd'hui encore, certains s'imaginent pouvoir invalider les textes bibliques en relevant les incohérences et les erreurs factuelles. Ils pourraient alors se réclamer de Smerdiakov. Le problème pour eux est que ce dernier est la figure, le prototype, de l'inculte qui a réussi à accumuler quelques bribes de connaissances sans être capable de les articuler entre elles et de mener correctement un raisonnement. Bien sûr qu'il y a des incohérences dans la Bible. Certaines sont liées au niveau de connaissance des auteurs, d'autres sont volontaires. Et celles qui sont volontaires sont là pour attirer notre attention et nous obliger à comprendre le sens du récit. Alors je vous fais cette introduction parce que dans le récit de l'évangile de Jean que nous venons d'entendre, ce récit présente deux bizarreries. La première se situe au moment où Pierre se rhabille avant de se jeter à l'eau. On aurait plutôt tendance à faire le contraire, à se déshabiller pour entrer dans l'eau. Alors peut-être que c'est juste la marque d'une différence culturelle. Comme lorsqu'on regarde les photos des baigneurs et baigneuses du début du siècle dernier qui s'habillaient de pied en cap pour entrer dans la mer. Mais ça peut être aussi pour Pierre une marque de respect envers son Seigneur qu'il a reconnu. Ou c'est tout simplement une idée farfelue qui nous arrive tous lorsqu'on est un peu surpris de faire quelque chose qui n'a strictement aucun sens. Mais je ne vais pas m'étendre davantage sur cette première étrangeté pour m'intéresser à la seconde qui me paraît beaucoup plus féconde. Cette seconde bizarrerie est que lorsque Jésus leur dit « Apportez quelques poissons que vous venez de prendre », il y a déjà du poisson en train de cuire. Tout semble prêt. Mais Jésus demande aux disciples d'apporter quelques-uns des poissons qu'ils venaient de prendre. Jésus a déjà tout disposé, ce qu'il faut pour célébrer un repas qui, par son menu, rappelle la fameuse histoire de la multiplication des pains et des poissons. Cela dit, c'est aussi un repas typique de pêcheurs. Jésus a déjà tout, tout semble préparé, tout semble être prêt. Néanmoins, il demande aux disciples d'amener des poissons qu'ils ont pêchés. Pourquoi donc? Qu'essaye de nous faire comprendre cet épisode? Alors, il est peu probable que Jésus ait mal estimé la quantité de nourriture nécessaire. Peut-être que jugeait-il important que les disciples participent à la préparation du repas et pas seulement à sa consommation. Il n'est pas besoin de beaucoup d'imagination pour voir aussi dans ce repas une allusion à la pratique de la scène, repas partagé en présence du Christ. Certaines de nos liturgies ne disent-elles pas, ne font-elles pas dire au Christ « Vous avez préparé ce repas et c'est moi qui le préside ». Même si nous affirmons que la scène est le signe de la grâce de Dieu, nous n'oublions pas qu'il a fallu que certains d'entre nous achètent, apportent, préparent et installent les éléments du repas. Qu'ils en soient ici remerciés. Jésus ici semble rappeler qu'ils ont une contribution à apporter et que cette contribution a du sens, même si elle est infime. Les disciples ne font pas que recevoir, ils participent. Ils sont partie prenante de la préparation de ce repas, préfiguration du royaume des cieux. Certes, ce royaume serait prêt sans eux, sans leur participation, mais il serait sinon incomplet, du moins moins beau. En quelque sorte, il serait moins royaume des cieux. On dit que Dieu se suffit à lui-même, peut-être n'est-ce pas tout à fait vrai. Peut-être que Dieu a besoin de chacun de ses créatures, ou simplement veut-il en avoir besoin. Cette contribution demandée aux disciples par le Christ n'est pas un effort démesuré. Ce n'est pas une performance. Demander à des pêcheurs d'amener des poissons est une exigence qui me semble, somme toute, assez raisonnable. De plus, souvenez-vous que ces poissons n'ont pas été pris uniquement grâce à leurs efforts. Les poissons pêchés par les disciples et amenés au repas ont été pris grâce au Christ. La contribution des disciples est elle-même offerte par le Christ. C'est une grâce de Dieu. Alors faudrait-il dire que finalement les disciples ne sont pour rien dans ce repas, puisque même les poissons qu'ils amènent sont donnés par Dieu? Ce n'est pas ce que raconte ce récit. Pierre et ses camarades ont pêché toute la nuit. Ils rentrent au petit jour, probablement épuisés, harassés. Et lorsqu'ils sont à une centaine de mètres du rivage, un homme, dans lequel ils n'ont pas encore reconnu Jésus, leur dit de jeter leur filet là où ils sont. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, il est probable que j'aurais répondu quelque chose comme « Mon bon monsieur, nous avons pêché toute la nuit, nous connaissons notre métier, ce n'est pas maintenant et ici que nous allons attraper quoi que ce soit, et de toute façon, je suis fatigué. » Mais eux, non. Les disciples ont eu confiance, et malgré leur épuisement, ils ont jeté le filet. Et cette confiance fut récompensée. Dans l'histoire du christianisme, la question de la participation des humains à leur salut, en collaboration ou non avec la grâce, s'est posée.
de la doctrine de Pélage qui affirmait que la grâce n'était pas nécessaire, au salut de la double prédestination de Calvin qui affirmait que la participation de l'humain était nulle, toutes les positions intermédiaires ont été soutenues. Ce n'est pas un débat qui obtiendra sa résolution ici, ni sans doute ailleurs. L'épisode ne parle pas tant du salut que de la participation à un repas, à une communion, à une communauté. Les poissons pêchés représentent la nourriture spirituelle apportée par le Christ, la grâce de pouvoir vivre en Église. Cette nourriture est reçue en témoignant de la confiance et en la mettant en pratique. Il n'y a pas de grâce si Dieu ne la donne pas. Il n'y a pas non plus de grâce si personne n'est là pour la recevoir. Essayer de distinguer ce qui revient à chacun est aussi mesquin que de savoir grâce à qui une fête entre amis est réussie en comparant les apports de chacun. C'est la présence et les efforts de chacun qui sont à l'œuvre. D'ailleurs, à proprement parler, cette réussite n'est pas tellement une récompense qu'une conséquence. En se montrant coopératif, les disciples ont laissé place à l'action épanouissante du Christ, porteuse de fruits. Les efforts des hommes sans l'aide de Dieu se sont montrés stériles, mais l'ouverture à la grâce a permis un résultat miraculeux. Et c'est cette confiance témoignée qui est leur participation au festin. Plus exactement, ce sont les fruits, les conséquences de cette confiance mise en pratique qui embellissent le repas. C'est également cette confiance qui leur permet de reconnaître le Christ en cet homme sur le rivage. La confiance ou la foi est une des réponses que l'on peut donner aux questions et aux demandes de Dieu. Il prend l'initiative, mais il nous laisse libres de notre réponse. Ce passage de l'Évangile nous rappelle que nous sommes invités au festin du Seigneur et que notre seule présence enrichit et embellit cette fête. Chacun de nous est indispensable à la réussite de la fête. Christ nous invite et si, poliment, nous demandons « Est-ce que je peux amener quelque chose ?» Il nous sera répondu de la même manière qu'aux disciples « Apportez donc ce que vous êtes et ce que vous savez faire. » Nous avons de la valeur et nous savons faire des choses. Le terme est volontairement vague pour que chacun puisse s'y retrouver, mais trop souvent, toutefois, nous avons l'impression que nous sommes en dessous de tout et que nos efforts sont galvaudés tant leurs résultats sont minables. Ce sentiment est surtout présent quand nous avons oublié ce drôle de bonhomme là-bas sur le rivage, que nous nous imaginons y arriver tout seuls par nous-mêmes. Les fruits de nos efforts ne sont jamais aussi abondants et beaux que lorsque nous y mêlons la grâce, et que cette grâce reçue devient une grâce partagée. A contrario, la pêche sans grâce s'est révélée stérile. On peut ici faire un lien avec les déclarations du pharisien Gamaliel. Car si leurs intentions et leurs activités viennent des hommes, elles disparaîtront. Mais si elles viennent vraiment de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Jusque-là, nous pouvons suivre ce raisonnement. Mais la conclusion qu'il en tire, pour mémoire, ne prenons pas le risque de combattre Dieu, n'est pas évangélique. Gamaliel se trompe lourdement. Il faut prendre des risques, quitte à se tromper. Jésus n'a jamais approuvé les ménageurs de chèvres et de choux. Il faut prendre parti, de préférence pour Dieu, bien évidemment. Mais encore vaut-il mieux prendre parti contre Dieu que de ne pas prendre parti du tout. Vouloir suivre Jésus le Christ est un chemin hasardeux où il est facile de se perdre, sur lequel on a tôt fait de prendre des décisions discutables. Il peut sembler plus sage de ne rien faire. Ne dit-on pas que c'est le seul moyen de ne pas se tromper ? Partir à la pêche était de la part de Pierre une décision impulsive qui ne répondait à aucune injonction du Christ. Cela pourrait même faire penser à un retour en arrière. Il retournait faire ce qu'il faisait avant de rencontrer Jésus. Et c'est pourtant là qu'il rencontre une fois de plus le ressuscité. En agissant, nous pouvons nous tromper, pécher, sans circonflexe cette fois-ci. Nous pouvons nous tromper, pécher, et alors ? C'est bien pour cela que Dieu a inventé la grâce. Il ne nous reste plus qu'à faire comme Pierre. Nous jeter à l'eau.
Cantique 47-22, j'ai tout remis entre tes mains, page 753. Je vous propose de dire ensemble la confession de foi, c'est celle qui est dans votre livret au numéro 6. Jésus de Nazareth nous a révélé Dieu. Jésus de Nazareth nous a révélé Dieu, le Seigneur tout amour. À sa suite, je l'appelle Père, celui qui est le Créateur du monde et le Sauveur de tout ce qui vit. Son Esprit nous rassemble aujourd'hui dans la louange, nous éclaire par l'Évangile et nous met en route dans le service de nos frères et sœurs. Il nous conduit vers le royaume de Dieu. Amen. Mon seul abri, c'est toi. Place. Quelques annonces. Alors, je voulais saluer mon collègue et néanmoins ami, Jean Dietz, qui nous fait le plaisir de sa présence parmi nous. Ah, tu veux dire quelques mots ?
Non.
Non, 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 je te voyais te lever, c'est pour ça.
Bonjour à tous, je vais commencer par des merci.
Donc, la première chose, je vais vous remercier vous tous d'être venus, déjà. Je vais remercier Mélanie, qui m'a assisté pour l'accueil, et puis qui a préparé la scène avec moi. Je vais remercier Vincent pour conduire le culte de ce jour. Donc, pour les annonces, je vais commencer par les choses tristes. Cette semaine, nous avons accompagné les familles de Dominique Raffin, de Colette Deschamps et de Madame Burneau. Donc, que nos pensées les accompagnent. Donc, cette semaine, il y a la chorale qui reprend mardi à 19h45. 19h15. Ouais. C'est bien ça? Ok. Il y a le mercredi, le groupe de prière, donc qui est à 18h. Donc ça, c'est pour la semaine. Je ne pense pas qu'il y ait d'autre chose de prévu. Pour le calendrier, en fait, des événements, donc je vous rappelle que le 3 septembre, il y a l'assemblée du culte du désert. Donc je ne sais pas si Mo est par là. Non, ils ne sont pas là. Bon, il y avait des gens qui devaient encore recotiser. Je ne sais pas s'ils ont pu le faire encore. Le 10 septembre, je vous rappelle que c'est le culte de la rentrée. Voilà. Donc là, je pense que j'ai rien oublié. Je voudrais juste faire une petite parenthèse. Il y a un petit témoignage donc, de Jean-Michel qui veut nous dire deux, trois mots. Vous savez que Jean-Michel, en fait... Et quelqu'un qui soutient en fait l'association de Grégory Lemarchal, donc qui lutte pour la mucoviscidose. Et puis là, il voulait faire son petit témoignage.
Et à la fin, applaudir pour moi et pour
lui. D'accord, très bien. Eh bien, viens.
Merci.
Et ça sera tout.
Et à la fin, vous pouvez applaudir pour moi et à lui.
Alors, je m'appelle Jean-Michel Pernol. Il a raison de dire que je soutiens l'association Grégory Lemarchal. Il est atteint de la mucoviscidose. Il est mort lundi 30 avril 2007. Eh bien, je vais vous dire à vous tous, vous êtes fans de Grégory. Eh bien, moi, j'ai rempli mon inscription. Voilà, l'inscription est faite. Moi, je vais être dans la Star Academy 4 et je pourrai entrer dans le château de Tamaris-les-Lys en rendant hommage à Grégory. Et ça aussi. Et voilà. Maintenant, Craig, tu me manques. Reviens parmi nous. Tu es mon idole. Tu es mon ange-canien. Tu veilles sur moi. Je sais que je suis ton donateur de l'association Grégory Lemarchal. Tu peux être fier. Eh bien, moi, mon nom d'artiste est Grégory Lemarchal. Merci à vous tous et je dois remercier à mon président de l'association Grégory Lemarchal, Pierre Lemarchal. Vous applaudissez à lui et sa femme, sa sœur et sa compagne.
Merci.
Maintenant, je laisse la parole.
Voici le moment de l'offrande. Nous pouvons, par notre don, manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens.
Thank you.
Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute autre offrande que nous inspire ton amour. Amen. Nous allons maintenant partager le pain et le jus de raisin. Chacun, chacune est la bienvenue qui reconnaît Jésus-Christ pour Seigneur. Ce n'est pas l'Église qui invite, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le conseil presbytéral, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous invite. À ce moment-là, les disciples sont nostalgiques. Depuis quelques semaines, leur vie a basculé. Il y a d'abord eu l'arrivée à Jérusalem sur un ânon et l'acclamation de la foule. Puis l'opposition croissante avec les religieux dans le temple, et enfin le repas pascal. Jésus y parle de sa propre Pâque. La tradition ne dit-elle pas que le Messie viendra à la nuit de Pâques? Tout concorde, c'est maintenant. Le temps de Dieu, l'heure du jugement, la fin de l'histoire, la réalisation de toutes les prophéties. Puis une tempête va tout emporter, arrestation, accusation, torture, parodie de justice, condamnation, exécution. C'est un ouragan qui arrache, qui casse, qui saccage tout, en ne laissant que ruines et désolation dans l'esprit des disciples. Ils n'étaient pas prêts à une telle issue. Pourtant, Jésus le leur avait bien dit. Il faut que le Fils de l'homme souffre et qu'il soit mis à mort. Mais ils n'avaient pas entendu, ou pas compris, ou pas voulu entendre. Comment comprendre les paroles de vie et de résurrection de celui qui a été englouti par la mort? Comment admettre que celui qui guérissait les infirmes, chassait les démons, ressuscitait les morts et apaisait les tempêtes ait pu subir le sort des maudits? De telles questions sont de nature à déraciner la foi la plus sûre, à ébranler l'espérance la plus solide. Mais ils vont opposer une incrédulité farouche à sa résurrection. Ils n'ont pas confiance ni dans les femmes qu'ils traitent de radoteuses, ni dans leurs propres yeux qu'ils soupçonnent d'hallucination. Pourtant, ils doivent bien se rendre à l'évidence. C'est bien lui qui leur apparaît et qui leur adresse la bénédiction. Que la paix soit avec vous. Mais il disparaît toujours trop vite. Là, de cette ambiguïté, Pierre n'en peut plus de rester là, ne rien faire, à attendre une hypothétique et nouvelle apparition. Il se tourne vers ses compagnons. « Je vais à la pêche. » Les disciples l'accompagnent. Ils travaillent toute la nuit et rentrent bredouilles. Quelqu'un les attend sur la plage et les invite à jeter leur filet de l'autre côté. Voici qu'un banc de poissons accroche le filet, la pêche et devient abondante, leurs yeux s'ouvrent. C'est le Seigneur. Jésus a préparé le feu, les pierres sont chaudes et les pains sont bons. On apporte les poissons pour les faire griller. Jésus prend le pain et le leur donne. Il en fait de même avec le poisson. L'aurore teinte le ciel. C'est un jour nouveau qui commence. Jésus attend ses amis sur la plage, il a préparé le feu et le pain. C'est lui qui réchauffe ses disciples quand ils ont froid dans leur cœur. C'est lui qui les nourrit quand ils ont faim d'espérance. Ce repas n'est-il pas l'écho d'un autre repas où il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps, donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après cet autre repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Nous prions. Les disciples t'ont cherché au tombeau, ils ne t'ont pas trouvé, ils t'ont attendu à Jérusalem, ils t'ont tout juste aperçu. En revanche, c'est toi qui les attendais. Lorsque de retour dans leur vie et dans leur travail, ils avaient faim et froid, lorsque leur pêche était stérile et que leur espérance était en panne. Aujourd'hui, nous allons nous rassembler autour de la table avec notre faim, nos soucis, nos peurs, nos blessures, notre attente. Accorde-nous la grâce de ton esprit pour que ce repas nous nourrisse, nous réchauffe et nous apaise. Que ce vin et ce pain deviennent pour nous communion au corps et au sang de ton Fils Jésus-Christ. Que ce repas nous donne d'entendre ton Fils qui nous attend sur le rivage pour nous dire « Réchauffe-toi à ce feu, nourris-toi de ce pain, sois mon disciple. » Amen. Et je vous invite à chanter « Seigneur Jésus, par ton esprit ».
Le pain pour lequel nous rendons grâce et la communion au corps, notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et la communion au sang du Seigneur Jésus-Christ, répandue pour nous et pour le salut de la multitude. Parfois, notre vie ressemble à une pêche infructueuse. Parfois, nous avons le sentiment d'avoir travaillé toute la nuit pour rien. Parfois, sur notre route, il fait froid. Nous avons faim de communion et d'espérance. Jésus ressuscité se tient sur notre rivage. Il nous appelle. Il nous invite à partager le pain de son repas. Vous tous qui êtes à l'écoute de son invitation, venez maintenant, car tout est prêt.
Thank you. Nous te rendons grâce pour ce jour nouveau de notre foi. Nous te rendons grâce pour tout ce que nous avons reçu dans ce repas. Pour ton pain qui nourrit notre faim, pour ta paix qui apaise notre inquiétude, pour ta vie qui éclaire notre chemin, pour ta parole qui accompagne notre solitude. Nous te rendons grâce parce que dans ta résurrection, tu nous attends et tu nous accompagnes. Apprends-nous maintenant à jeter une fois encore le filet de l'Évangile, à partager ce que tu nous donnes avec ceux qui croiseront notre route. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir appelés à vivre à ton service et au service de notre prochain. Nous te demandons de pouvoir voir dans notre communauté l'expression des dons que tu donnes généreusement à ton Église. Celui du discernement dans les multiples questions de la vie, celui de la sagesse dans nos efforts d'atteindre par ton Évangile les plus jeunes. Sachant que tu nous appelles tes enfants, nous te demandons d'agir à travers nous pour la paix du monde, quand bien même cela commence avec notre cercle le plus proche. Nous te demandons le courage, la patience et la générosité qui découlent d'une imitation de Jésus-Christ. Nous comptons sur ton esprit pour nous rendre toujours plus à l'image de ton Fils. Rappelle-nous de penser aux autres alors qu'en ce moment même, nous prions pour la création dans ses souffrances, le monde dans ses difficultés, et ceux que tu as placés sur notre chemin et qui comptent sur nos prières. Nous te demandons toutes ces choses, ensemble, en communauté, dans le beau nom du Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, lui qui nous enseigne et te dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Toi, mon frère, toi, ma sœur, quitte ce temple et partage ce que tu as reçu avec ceux que tu rencontreras. Espère l'Évangile, chante l'Évangile, partage l'Évangile, souffre l'Évangile, vis l'Évangile. Et le Christ sera ton compagnon, fidèle dans toutes tes actions. Il est ta respiration. Que le pardon, la paix et l'amour vous soient donnés en abondance. Allez dans la joie du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous invite à terminer en chantant « Tu nous appelles à t'aimer ».
Annonces. Il y a le journal qui se distribue dans le hall, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore, qui je ne l'ai pas donné, enfin on ne l'a pas donné, pensez à le prendre en partant.